Alors d'abord, je voudrais dire ben, bonne fête, les mamans. Et je voudrais juste vous rappeler, je ne sais pas, vous avez dû lire le calendrier ce matin. Non, pas tous. Une parole de Garibaldi. Il disait à une petite fille, Dieu ne pouvait pas être partout, mon petit. C'est pour cela qu'il a créé les mères. Ne l'oublie pas. Alors les mamans, vous avez certainement un rôle particulier auprès de vos enfants, auprès des enfants. Peut-être leur faire voir à travers votre amour un peu l'amour du Père. Alors ce matin, j'ai choisi un thème. Comment vivre nos difficultés ? Alors, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais la vie n'est pas particulièrement tendre pour tous. Et dans l'Église, comme dans la société, il y a plein de personnes en difficulté. Il y a bien sûr plusieurs causes de difficulté, des problèmes de santé, des problèmes de travail, de finances, voire de relations familiales, enfin, plein de circonstances. Et qui n'a pas ou n'a pas eu des difficultés? Il y en a parmi nous? Non? Tout un ensemble de circonstances font que la vie quotidienne n'est pas toujours facile. La vie peut être sombre, et un peu comme le temps, bien qu'aujourd'hui ça se soit arrangé, il nous semble que le soleil ne brille pas tous les jours. Et moi, je ne vais pas dire que j'ai une solution à tous vos problèmes. Je veux juste ce matin attirer votre attention sur celui qui a des solutions. Celui à qui on peut faire appel et à qui on peut se confier. Je voudrais nous encourager, vous encourager. Et pour cela, on va voir comment Paul conseille de vivre nos afflictions et nos difficultés en lisant les cinq premiers versets de Romains 5. Donc Romains 5, versets 1 à 5. Étant donc justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ, à qui nous devons d'avoir eu par la foi accès à cette grâce dans laquelle nous demeurons fermes. Et nous nous glorifions dans l'espérance de la gloire de Dieu. Bien plus, nous nous glorifions même des afflictions. Nous nous glorifions des afflictions. Sachant que l'affliction produit la persévérance la victoire dans l'épreuve, et cette victoire, l'espérance. Or, l'espérance ne trompe pas, parce que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Dans ces cinq versets, Paul nous rappelle cinq vérités. 1. Nous sommes justifiés. 2. Nous avons la paix. 3. Nous avons une espérance. 4. Nous aurons des afflictions. Et 5, nous connaissons l'amour. Nous sommes justifiés. Quand on parle des difficultés de la vie, la justification, ce n'est pas la première chose qui nous vient à l'esprit. Quel rapport entre la justification et les difficultés? Alors dans les 4 premiers chapitres de son épître aux Romains, Paul nous parle de tout ce que Dieu a fait pour nous sauver. Il parle du fait que devant Dieu, tous nous sommes pécheurs, coupables. À cause du péché, nous sommes tous condamnables aux yeux de Dieu. Et sans Christ, en vous comme en moi, il n'y a rien de bon. Au chapitre 3, Paul paraphrase le psaume 14 et il dit « Il n'y a pas de juste. Pas même un seul. Nul n'est intelligent, nul ne cherche Dieu. Tous sont égarés, tous sont pervertis. Il n'en est aucun qui fasse le bien. Pas même un seul. Et un peu plus loin, tous sont péchés et sont privés de la gloire de Dieu. Personne n'est mis à côté de la situation, là. On ne peut pas montrer l'autre du doigt et lui dire, oui, mais lui, il est pire que moi. Non, il n'est pas pire. On est tous au même point. Tous dans la même galère. Tous à cause de notre péché, ennemis de Dieu. Et Dieu considère que nous ne méritons que la mort. Et Dieu, un jour, va révéler sa colère contre ceux qui lui ont tourné le dos pour suivre leur chemin. Alors jusqu'à maintenant, tout ça, c'est pas très encourageant. Mais c'est pas la fin de l'histoire. Au milieu du chapitre 3 et au verset 21, il y a un « mais ». Et ce petit mot change toute l'histoire, toute notre histoire, toute l'histoire du monde. Mais, maintenant, sans la loi, est manifestée la justice de Dieu, à laquelle rendent témoignage la loi et les prophètes. Justice de Dieu par la foi en Jésus-Christ pour tous ceux qui croient. Il n'y a point de distinction. Alors on peut imaginer Paul qui est en train d'écrire sa lettre, puis qui s'arrête un instant, juste avant d'annoncer la meilleure nouvelle possible. Mais maintenant. Maintenant, notre péché peut être pardonné. Maintenant, nous pouvons être justifiés. Justifiés veut pour nous dire que nous sommes acceptable aux yeux de Dieu, acceptable à cause de Jésus, à cause du prix qu'il a payé pour nous. Nous ne sommes plus ennemis, nous ne sommes plus condamnables, nous sommes maintenant non amis de Dieu. Mieux encore, nous sommes enfants de Dieu. Dans les Éphésiens, on peut dire « Vous étiez morts par vos offenses et vos péchés ». Et un peu plus loin, nous tous aussi étions de ce nombre. Nous vivions autrefois selon les convoitises de notre chair. Et encore un peu plus loin, mais Dieu qui est riche en miséricorde, à cause du grand amour dont il nous a aimés, nous qui étions morts par nos offenses, nous a rendus à la vie avec Christ. C'est par grâce que vous êtes sauvés. Alors, parce que nous sommes sauvés, justifiés, il y a une suite pour nous. Quelque chose de bon qui vient après. Après, nous avons la paix avec Dieu. Alors, dans ce monde où nous vivons, la paix nous échappe souvent. On vit parfois dans un monde terrifiant. On est entouré de douleurs, de violence, de mal. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais les images qu'on voit à la télé, c'est rarement des images de paix. Dans notre monde, dans notre famille, dans notre pays et même dans notre famille, où est la paix? La paix, ce n'est pas juste avoir un peu de calme et de tranquillité. La paix, c'est l'absence de tout conflit. Avant d'être en paix avec Dieu, nous étions ennemis, nous étions en conflit avec lui. Tout ce que nous étions, tout ce que nous faisions, c'était une véritable guerre contre Dieu. Mais maintenant, il y a la paix. Entre Dieu et moi, il n'y a plus de conflit. Et comme nous le dit Paul quand il parle aux Corinthiens, tout cela vient de Dieu qui nous a réconciliés avec lui par Christ. C'est Dieu qui a fait le premier pas vers moi. Moi, j'étais mort dans mon péché, incapable de faire quoi que ce soit pour résoudre ce problème. Mais Dieu a fait la paix. Et c'est cette paix qui aide dans les circonstances difficiles de la vie et qui donne l'espoir. Nous avons une espérance. C'est dommage que l'espérance soit coupée. Hein. Bon. Je sais pas pourquoi ça ne correspond pas à ce que je fais sur mon ordinateur. Mais bon. Qu'est-ce que c'est notre espérance ? Que demain il fera enfin beau ? Il paraît qu'il fera beau demain. Pas après-demain. Notre espérance, c'est que dans la semaine, on va gagner au loto ? Que tout ira bien ? Paul ne nous dit pas ça, il nous dit que notre espérance, c'est la gloire de Dieu. Ça veut dire quoi, ça, exactement ? Paul parle là de notre avenir. Un jour, nous serons avec Dieu pour l'éternité. C'est cool, ça. Qu'est-ce qu'on fait entre-temps, en attendant ? Or, certains disent que les chrétiens ne sont pas des réalistes. Ils disent qu'on est si préoccupés par le ciel que nous sommes inutiles sur la terre. Ils nous accusent de vivre pour l'avenir et pas pour aujourd'hui, pour le présent. Est-ce qu'ils ont raison ? Alors, en partie, oui. Quand nous sommes accablés par les circonstances de la vie, on peut lever nos yeux et dire « J'ai une espérance. Ce que je vis ici-bas n'est pas tout. Ce que je souffre ici n'est pas la fin de l'histoire. » Mais notre foi, notre espérance, ce n'est pas un moyen de fuir la réalité. Nous n'avons pas à nous réfugier dans l'imaginaire. Le christianisme, c'est quelque chose de terre à terre. On va le voir tout à l'heure. Paul, au verset 2, dit que par la foi, nous avons accès à la grâce de Dieu. Et dans cette grâce, nous demeurons fermes. Il nous dit par là que nous avons au pied de Dieu accès auprès de Dieu uniquement parce que Jésus nous accompagne. Jésus nous présente à son Père qui nous fait bon accueil. Comme si nous étions un de ses enfants et nous devenons un de ses enfants. Et nous sommes en sécurité. Alors je ne sais pas si vous avez remarqué, mais auprès des grands de ce monde, la situation de leurs conseillers, de leurs proches n'est pas certaine. Pour un mot, pour un geste, ils peuvent être en disgrâce. Ce n'est pas la situation qu'on a auprès de Dieu. Il nous a choisis, il nous accepte, et lui, il ne change pas. Il ne change pas d'avis. Il n'est pas inconstant. Car j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ, notre Seigneur. Notre position est assurée, elle est sûre. Mais nous aurons des afflictions. Là aussi, affliction est coupée. Notre foi est pratique. Bien sûr, on garde l'œil fixé sur l'avenir, sur le ciel, mais nous vivons pleinement sur cette terre et nous aurons et nous avons des afflictions. Certains pensent que quand ils deviennent chrétiens, tous leurs problèmes doivent disparaître. Je suis désolé. je vais peut-être vous décevoir, mais c'est pas vrai. Et j'ose même dire que pour certains, les choses vont empirer. Avant d'être chrétien, il n'y a que les tribulations de la vie normale. Mais en tant que chrétien, nous sommes aussi méprisés par le monde. Le monde n'aime pas les chrétiens. Pire, il nous déteste. Alors dans nos pays, on ne le voit pas trop. Je ne sais pas si vous suivez les actualités. Vous voyez dans le monde musulman, en Inde, au Pakistan, et partout. Et Jésus nous l'a dit clairement juste avant d'être crucifié, « Si le monde vous hait, sachez qu'il m'a haï avant vous. Si vous étiez du monde, il vous aimerait. Il aime ce qu'il est à lui. Mais parce que vous n'êtes pas du monde, et que je vous ai choisi au milieu du monde, à cause de cela, le monde vous hait. » Est-ce que vous êtes encouragé par cela ? Dans le même évangile, Jésus dit « Souvenez-vous de la parole que je vous ai dite, le serviteur n'est pas plus grand que son maître. Jésus a souffert, nous souffrirons aussi. » Jésus, c'est notre exemple. Et c'est lui qui a dit « Vous aurez des tribulations dans le monde. Prenez courage, j'ai vaincu le monde. » Alors nous souffrons, nous allons souffrir, c'est sûr. Mais il ne faut pas s'arrêter là. Nous nous glorifions même des afflictions, sachant que l'affliction produit la persévérance, la victoire dans l'épreuve, et cette victoire, l'espérance. En général, les gens, et même les chrétiens, pensent que l'affliction, c'est simplement quelque chose qu'il faut supporter, qu'il faut endurer. Alors peut-être nous serrons les dents en disant « ça ira mieux demain ». Mais Paul nous dit par là que les afflictions, ce n'est pas quelque chose qu'il faut simplement endurer. On peut se glorifier de nos afflictions. Paul est-il devenu fou ? A-t-il perdu son bon sens ? C'est un peu ce qu'on pourrait penser quand même. Est-ce qu'il s'attend de nous que, quand nous prions le Seigneur, nous lui disions « Merci Seigneur pour tous ces problèmes que j'ai ». C'est magnifique les problèmes. Alors je ne crois pas qu'il s'attende à ça, Paul. Personne n'aime les problèmes, Paul non plus. On n'est pas des masochistes. Mais comme Paul, on peut peut-être voir au-delà des problèmes, au-delà des afflictions. On peut voir que, ou on peut ne pas voir, mais on peut croire par la foi que, au-delà des afflictions, de ce que nous souffrons, toutes les choses concourent à notre bien. Ou bien de ceux qui aiment Dieu. On peut croire que tout ce qui nous arrive est permis par un Dieu, notre Dieu, qui est souverain. Job disait, nous recevons de Dieu le bien, et nous ne recevrions pas le mal. Facile à dire, pas facile à vivre. Pas facile, mais probablement possible. L'affliction produit la persévérance, la victoire dans l'épreuve. Par la grâce de Dieu et à cause de la certitude de ce qui nous est réservé, nous pouvons persévérer. Ne pas baisser les bras. Pas parce que nous sommes forts. Nous ne le sommes pas. Parce que lui est fort. C'est lui qui nous tient dans sa main, c'est lui en qui nous avons mis nos espoirs, c'est lui qui a vaincu le monde. Qu'est-ce donc que la victoire dans l'épreuve? Est-ce que Paul veut dire par là que nous allons surmonter tous les problèmes, que nous allons toujours réussir? Je ne pense pas, il en a fait l'expérience. Certaines de nos afflictions peuvent nous suivre jusqu'à la mort. Même les problèmes qui ont été considérés comme petits n'ont pas forcément une fin. Dieu est capable d'intervenir dans toutes les circonstances, mais sa volonté est souveraine. Alors c'est où la victoire? La victoire se trouve au cœur de l'épreuve, au fait qu'au milieu de l'épreuve, nous persévérons. Nous devenons de plus en plus conformes à l'image de Christ. De plus en plus, nous pouvons réagir comme lui l'aurait fait. Par nos difficultés, par nos afflictions, nous mûrissons, nous grandissons. Nous voyons la main de Dieu, nous savons qu'il œuvre en nous. Nous tous, vous et moi donc, qui le visage découvert, contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur, nous sommes transformés en la même image, de gloire en gloire, comme le Seigneur, l'Esprit. On a l'assurance que notre foi n'est pas vaine. La gloire à venir n'est pas une illusion. Je suis persuadé que celui qui a commencé en vous cette bonne œuvre la rendra parfaite pour le jour de Jésus-Christ. Paul parle ici de ce que nous sommes, de notre caractère. Que devenons-nous dans l'épreuve? Est-ce que nous sommes amers à cause de ce que nous souffrons? Sommes-nous en colère? En colère contre Dieu? En colère contre le monde? En colère contre les autres? Est-ce que nous acceptons ce qui nous arrive? Et je ne veux pas dire par là que nous devons être passifs. Nous devons être résignés à notre destin. Nous devons seulement accepter activement ces choses, disant « Seigneur, travaille en moi, transforme-moi selon ta volonté, transforme-moi pour ta gloire. » Alors quand nous traversons l'épreuve, pour peu que nous laissions Dieu agir en nous, nous grandissons. Et à cause de cela, nous sommes peut-être mieux équipés pour aider les autres. Pour aider les autres, nous ne dirons pas bêtement « Allez, j'ai connu ça, pas de problème, te tracasse pas trop, bonne chance. » Ça aide personne. Je parle plutôt de la compassion que nous pouvons avoir pour les autres. Et il est peut-être plus facile de compatir avec un autre quand nous avons connu les mêmes peines, ou au moins la peine de l'affliction. Si nous connaissons la pression qui vient avec la difficulté, nous savons ce que c'est peut-être de supporter cette charge qui est lourde. Et dans la compassion avec l'autre, il n'y a pas forcément besoin de parler. Notre présence, notre écoute peuvent certainement plus pour les autres que nos paroles. La compassion n'est pas sympathie non plus. On n'a pas pitié de l'autre. On ne le voit pas comme le pauvre petit. Si nous devons parler, c'est même pas pour dire « je sais que tu souffres ». Je sais que tu souffres. Non, nous ne pouvons pas savoir ce qu'il souffre. Nous pouvons simplement le soutenir. Nous pouvons dire, je suis là. Et souvent, je suis là, ça suffit. Enfin, nous connaissons l'amour. C'est le verset 5, le cercle est bouclé. Nous parlons encore une fois de l'espérance. C'est dans la souffrance que nous sommes assurés de l'amour de Dieu. Beaucoup de gens diraient que la souffrance les fait douter. Paul voit les choses autrement. Il dit « L'espérance ne trompe pas parce que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. » Une autre version dit « L'espérance n'est pas une fantaisie. » Quand on met notre foi en Dieu, on se confie en une personne. La personne la plus fiable qui puisse exister, qu'on puisse imaginer. Et cette personne, elle ne nous décevra jamais. C'est Dieu lui-même qui, dans sa parole, dit à beaucoup de reprises, « Je ne te délaisserai pas, je ne t'abandonnerai pas. » Paul écrit aux Corinthiens, « Il vous affermira aussi jusqu'à la fin pour que vous soyez irréprochables au jour de notre Seigneur Jésus. Dieu est fidèle, lui qui vous a appelé à la communion de son Fils, Jésus-Christ, notre Seigneur. Dieu est fidèle. » Or, dans le monde, on risque fort d'être déçu. Dans l'Église, je pense qu'on sera déçu aussi. Dans nos familles, même avec ceux qui nous sont chers, on risque fort d'être déçu. Mais avec Dieu, pas de risque. Il n'y aura pas de déception. Son amour est certain. Et on connaît son amour parce qu'il a mis le Saint-Esprit en nous. Le Saint-Esprit qui nous fait dire « Abba, Père ». Et c'est ce nom qu'on peut crier dans notre détresse, dans notre souffrance. On est certain que Dieu, notre Père, nous entend, qu'il nous aime. C'est l'heure de conclure. Nous nous glorifions même des afflictions, sachant que l'affliction produit la persévérance, la victoire dans l'épreuve et cette victoire l'espérance. Or, l'espérance ne trompe point, parce que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Nous avons et nous aurons des afflictions. La vie n'est pas facile, mais Dieu est fidèle. Par la force qu'il nous donne, par sa force, nous persévérerons dans l'épreuve. Et dans l'épreuve et par les épreuves, nous pouvons grandir et nous sommes assurés de la présence de Dieu avec nous. Nous avons un avenir. Un jour, les souffrances prendront fin. Nous aurons une éternité de joie avec notre Dieu. Notre désir n'est-il pas que cela vienne bientôt? En attendant ce jour, demeurons fermes dans la grâce de Dieu, persévérons dans l'amour. Et souvenons-nous que dans nos difficultés, Dieu nous dit, « Mon enfant, ta grâce, ma grâce te suffit. » Amen.